quiz. Je distribue des swings et des supercuts.
Nous revoilà pour une revue de presse franco-belge, d'ailleurs, pas comics, comme la musique aurait pu vous laisser penser. Je ne sais pas, je n'ai pas été
inspiré.
Ouais, voilà, je vais te trouver des choses, hein, t'en fais pas.
Je peux je te changer pas, là.
La musique. Mais par contre, du coup, mon petit Stéphane, je vais te demander aujourd'hui, puisque je suis le seul à avoir préparé complètement la sélection, à m'aider et à faire ton Arnoux. Hein, ouais. Arnoux, à sa grande époque, je lui demandais de me faire le pitch de chaque BD en une seule phrase. Et quand, wow. quand je lui expliquais qu'il suffisait de me lire la quatrième de couve, il avait du mal en général. Il le faisait vachement mieux à la fin qu'au début. Donc en fait, pour introduire chaque album, je vais t'inviter de ta voix suave à me faire la quatrième de couve. C'est-il pas merveilleux?
Génial. Bon, ben, on va commencer. Alors, on est dans l'ordre comme on avait prévu.
Dans l'ordre que je te l'avais donné, oui. Le premier titre s'appelle comment?
Le premier titre s'appelle « D'en haut, la terre est si belle ». Donc, Tony Bruno, donc un auteur italien, s'est publié chez Glénat dans la collection 13 étranges.
Voilà. Donc, c'est et bien. Que nous dit la quatrième de couve?
Un petit volume sympa. Alors, quand le major Akim Smirnov, le plus grand cosmonaute de l'Union soviétique, est incapable de repartir dans l'espace à cause de troubles comportementaux, et que Franklin Jones, le spécialiste américain en études cognitives, est appelé pour le remettre sur pied, la situation devient pour le moins incongrue en pleine guerre froide, alors que les Russes et Américains s'affrontent dans une course sans merci pour la conquête de l'espace.
Voilà.
Les mecs, là, de temps en temps, un petit point, ça ferait du bien, non?
Ouais, et en même temps, je pense que tu viens de découvrir sur cette quatrième de couve un peu tout le problème de cet album. Avec un pitch qui, en soi, n'est pas forcément inintéressant.
C'est clair. Je pense que c'est aussi un petit peu le... Enfin, on verra par la suite, mais je trouve que les pitchs sont intéressants, mais quelquefois, après, la réalisation est plus décevante.
Voilà, bah, et on y reviendra, effectivement, sur d'autres albums. Le problème que j'ai eu sur ce titre, c'est que finalement... Au-delà d'un pitch qui peut être intéressant, je n'ai réussi à m'attacher à aucun des personnages et j'ai trouvé que ça manquait de respiration et que du coup, le fait d'arriver sur un album de 200 pages, ce qui est assez logique dans la collection 13 étranges, est quand même assez déstabilisant.
Et c'est dommage parce que le dessin est très intéressant.
Voilà, Bruno Totti est très bon.
C'est un pur bonheur de là effectivement à voir, de lire. On est un petit peu plus.
On va être clair. Hein. La sélection du jour. Au niveau graphique, il n'y a pas vraiment un album qui dénote. Les quatre sont très bons dans les genres très différents.
Effectivement.
Et graphiquement, il n'y a aucun album qui est décevant. Après, voilà, c'est. Je ne suis pas forcément le client absolu de ce genre d'histoire, mais à la limite, j'avais peut-être plus d'intérêt pour le côté psychanalytique que pour le côté course aux étoiles. Mais voilà, je ne suis pas rentré dedans. Je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé, parce que finalement... Ça se lit bien, la narration, mais...
Après, bon, c'est une question, bon, une thématique. Donc oui, c'est un petit peu dommage, je pense qu'il y a... Voilà. On n'est pas au rendez-vous. Enfin, je m'attendais à quelque chose de plus intéressant. Ben,
je m'attendais surtout à un pitch un peu plus complexe que finalement ce rapport psy-patient avec un patient qui se méfie de son psy.
Il a peut-être un peu raison aussi. Hein.
Bah oui, non, mais dans le contexte de guerre froide, de toute façon, se méfier d'un Américain, c'était totalement logique en Russie.
Oui, c'est pas vous.
Voilà, quoi qu'il fasse, c'était pas. Voilà. Et en même temps, voilà, c'est pour moi un acte manqué parce que, alors peut-être que du coup, souvent quand on fait des revues de presse comme ça, on récupère tous les bouquins en même temps, on les lit tous sur une durée assez courte. Et finalement, on n'a pas le temps de se mettre dans l'état d'esprit. Et peut-être que si c'était un livre que j'avais acheté pour moi, certainement même, je ne l'aurais pas forcément lu à ce moment-là, dans les mêmes conditions, et je serais peut-être rentré plus facilement dedans. Voilà. En tout cas, c'est un... Voilà. C'est étonnant. Je ne vais pas dire que c'est attachant, parce que je ne me suis pas attaché. Mais on sent qu'il y a... Il y a une atmosphère, il y a une ambiance. Et du coup, je ne suis pas sorti de cette atmosphère et de cette ambiance pour m'intéresser au pitch réellement. Et c'est vrai que peut-être que du coup, le pitch ne nécessitait pas d'arriver à 200 pages ou pas, en tout cas, sans avoir des rebondissements intérieurs. Quand on fait une histoire en 200 pages, il y a un moment où il y a intérêt à la couper en actes. Et là, on n'a pas cette...
Effectivement, je pense que ce que tu dis est tout à fait juste. C'est quand on voit ce bouquin, on s'aperçoit que tout est d'une seule traite et que finalement, il y aurait peut-être eu juste un chapitrage sur quelques séquences, ça aurait quand même été plus intéressant, parce qu'on sent que ça se passe sur une certaine durée et tout, et que mais finalement, on voit les saisons, des choses comme ça, donc on voit bien cette durée, enfin ce temps qui passe. Mais oui, c'est totalement, tout est enchevêtré, que finalement on n'a pas de... Oui, comme tu dis, il n'y a pas de... Il y a un problème, je trouve qu'il y a un problème de rythme.
Après, voilà, c'est un auteur qui est en plus peu connu en France, donc c'est vrai que se lancer sur ce contexte-là, sachant quand même que son seul titre qui a été traduit, il l'a été d'ailleurs par Urban, et c'était Kurt Cobain,
When I Was an Alien, Urban.
Voilà, qui est du coup... Enfin, c'est assez dingue. Bon, il sort quand même 2 albums en un an, 300 pages de BD pour un auteur, on n'est pas dans un rythme de production à la française. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas mis plus d'un an à les faire, mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui a une production du coup assez importante. Voilà. En tout cas, un titre qui moi m'a laissé un peu
froid.
Ouais, voilà, c'est...
Et c'est pas inintéressant, ça se laisse lire, il y a pas de souci. Après, c'est pas le coup de cœur.
C'est voilà.
Mais bon, si on a des sélections avec un ouvrage comme ça, qui serait peut-être un peu plus, peut-être le plus fin pour peut-être le plus faible des quatre, mais c'est quand même d'un bon niveau.
Ouais, tout à fait. Techniquement, voilà, il y a pas à se poser la question du pourquoi ils ont édité cette blouse, comment ils sont arrivés là. Ce qui parfois peut nous arriver, même si on ne le dit pas de manière aussi cash. Voilà. Et des fois, on dit, mais par quel miracle ont-ils trouvé un éditeur ? Là, concrètement, l'auteur maîtrise son truc et on est sur quelque chose qui a sa place dans les librairies. C'est juste effectivement que, du coup, je ne suis pas rentré dedans sur ce coup-là. Donc, c'est vraiment, je pense, un acte manqué de ma part. Voilà.
Peut-être à retenter un peu plus tard.
Voilà, donc c'est un one-shot de 200 pages. Donc voilà, on est quand même sur un titre qui, du coup, quand même. Voilà.
C'est intéressant quand même. Enfin...
Non, tout à fait. Bon, on n'est pas sur un titre très cher, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. 20 euros, c'est pas.
Oui, c'est clair. Après, il aurait est-ce que c'était les plans, la taille des planches originales ou autre ? Je me demande s'il n'aurait pas mérité d'être publié dans un format un petit peu plus grand.
C'est possible. Voilà.
Ça, c'est mon avis.
Après, c'est lié effectivement à cette collection qui sort dans ces formats-là. On va passer sur le deuxième titre. Le deuxième titre est plus attendu. Il est l'œuvre de Enki Bilal. Et quand Enki Bilal sort quelque chose, forcément, on sait que ça va être un événement.
Oui, donc ça s'appelle Bug. C'est publié chez Casterman pour 18 euros. C'est aussi un demi-format. C'est vrai que c'est un peu étonnant ce format-là.
Enfin, alors, il existe en deux formats.
D'accord. Voilà. Ah bon, mais là, je ne savais pas.
Et c'est peut-être aussi un peu le...
Un des problèmes.
Les problèmes. Moi, vous comprenez, je suis encore assez jeune. Donc, je n'ai pas eu trop de problèmes à le lire. Mais Alain, qui l'a lu avant, a eu plus de problèmes, puisqu'on a ce format-là, et on a un format 28-2 par 37-4, mm-hmm. avec un tirage à part, qui existe. Et du coup, eh ben, le pauvre Alain, il a eu du mal à ses petits yeux, parce qu'il n'arrivait pas forcément à tout lire comme il faut. Vous voyez, enfin, vous pouvez comprendre, il trouvait que c'était écrit petit. C'est, à un certain âge, vous aussi, vous aurez un problème à lire les livres écrits petits.
Bon. Oui.
Voilà. Après, bon, il est, l'album en plus coûte 18 euros dans le format standard, celui que tu as. Alors, qui est plus un format comics, du coup, qu'un format librairie classique.
Oui. C'est vrai.
Et du coup, le deuxième en format plus grand était à 30 euros quand même. Après, j'ai envie de dire que c'est du Bilal.
Et que donc, ça mérite un peu. Ça, je ouais, pense que le.
Ça mérite un format un peu plus grand. Je vais quand même te laisser nous faire la quatrième de couvre.
Alors, bug, définition. En français, se dit d'un défaut affectant un programme informatique. En anglais, se dit d'un insecte, d'une bestiole, d'un virus. En 2041. La Terre est confrontée brutalement et simultanément aux deux. Un homme seul se retrouve dans la tourmente, convoité par tous les autres.
Voilà. Alors, juste, on va revenir donc sur ce titre, qui est un premier tome. C'est une série en deux parties. On va juste rappeler une chose, un détail essentiel. Enki Bellal ne fait pas de bande dessinée.
C'est plus de l'illustration.
Enki Bellal fait du roman photo. Il fait des tableaux et il les remet en page ensuite. C'est-à-dire que toutes les images d'Enki Bellal sont dessinées effectivement et peintes comme des tableaux et qui sont recomposées ensuite dans une mise en page. Ce qui fait qu'en termes graphiques de création, c'est toujours exceptionnel.
Oui, c'est un faux. Il n'y a pas d'autre mot, effectivement. Mais en plus, là, il a lâché prise autant lorsqu'il faisait lorsqu'il travaillait encore de façon un peu plus conventionnelle, avec de l'encre autre, lui donner son style très particulier qui était aussi assez rigide. Et là, finalement, ça lui donne. Il y a une espèce de fluidité qui est assez étonnante. Et j'avoue que l'homme m'a séduit. Bon, le peut-être moins sur le scénario, mais graphiquement, waouh!
Ça reste un dieu de l'illustration, là-dessus, il n'y a aucun doute. En termes de scénario, eh bien, c'est un peu là où le bât blesse. Bellal fait du Bellal pour recycler du Bellal. Ça a un côté un peu déjà vu. Est-ce que vraiment le fait de refaire des taches de peinture bleue au-dessus de l'œil qui grandissent, enfin voilà.
Oui,
les hommes bleus, Enki, t'en as déjà fait, c'est peut-être pas non plus utile, ça n'apporte rien au scénario.
Et c'est un petit peu dommage parce que, comment dire, le prémisse était intéressant.
Oui, alors le prémisse était intéressant, mais justement, le prémisse est tellement intéressant qu'on regrette qu'il n'ait pas été plus loin dans le concept. C'est-à-dire que...
Donc ça devient presque un prétexte, en fait.
Ah, mais complètement. Et c'est là où je suis, moi, un peu dubitatif. C'est que... Donc, il y a ce bug, effectivement. On est en 2041. Les ordinateurs ont pris une importance énorme. Et tout le monde est tributaire de l'ordinateur. Mais finalement, il se concentre plus sur l'histoire de ces astronautes et des personnages... qui vont revenir que sur le fait de ce bug. Ce bug, il est finalement très peu présent.
Et c'est dommage parce que, effectivement, alors que tout le, y a plus une donnée numérique existante. Donc, plus de disque dur, plus de clé USB, plus rien, plus de SIM, plus rien. Et sur une société qui est complètement dépendante du numérique, les conséquences peuvent être quand même complètement catastrophiques.
Justement.
Et on en voit, il y a quelques pages où c'est un petit peu expédié, où on y voit quelques premières conséquences, mais finalement, on s'aperçoit que ben, on n'a pas cette espèce de sentiment de chaos généralisé, alors que ça paralyse toute la société.
Et puis Enki Bellal se la joue plus con. Alors oui, il a 66 ans, oui, il a le droit d'être vieux, mais quand on est vieux con, on prend sa retraite, parce que là, c'est plus possible. Alors, bon, c'est un peu verbeux par moment, Bellal l'a toujours été, on va pas le lui reprocher. Moi, il y a deux, trois planches qui m'ont un peu gêné, qui sont les fameuses planches de journal.
Oui, oh là là.
Parce que, alors, effectivement, d'accord, ils n'ont plus d'ordinateur, ils se remettent à imprimer des trucs et leur traitement de texte n'ont plus de correcteur d'orthographe. Et les jeunes d'aujourd'hui, ça ne sait plus écrire, donc c'est bourré de fautes d'orthographe qui rendent le truc illisible.
Ah, ça fait piquer. Là, je crois qu'on met ça dans les mains d'un prof de français, il est en PLS tout de suite. Hein.
Non, même pas, parce que ce n'est pas crédible. C'est tellement poussé dans le ridicule. En plus, il y a des choses qui tiennent plus de la faute de frappe que de la faute de français, parce que quand l'apostrophe se décale d'une lettre, voilà. Mais j'ai trouvé que ces pages étaient lourdes.
Le quotidien des derniers geeks qui emmerdent ceux qui leur reprochent les fautes d'orthographe.
Voilà. Et voilà.
Oh la vache.
Et moi, j'ai trouvé que ces planches-là, elles servaient à expédier l'histoire principale, celle du bug informatique, qui aurait pu être beaucoup plus intéressante que de se concentrer uniquement sur cet astronaute qui revient, qui semble avoir aspiré toute la connaissance des ordinateurs et avoir un savoir encyclopédique, et que du coup tout le monde veut récupérer pour soi.
Oui, effectivement, toutes les grandes nations spatiales se retrouvent là-dessus. Oui, c'est... j'attendrai quand même de voir la... Je serais curieux de voir comment il va s'en sortir pour finir son histoire. Mais bon.
Mais voilà. Du coup,
après, c'est effectivement magnifique.
Voilà, c'est absolument magnifique. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, voilà. C'est... Enki Bilal ne sort pas de sa sphère de confort. Et ça, c'est un peu dommage. Il avait un concept qui pouvait aller beaucoup plus loin. Et il n'a pas essayé de l'étendre au-delà de ce qu'il sait faire et ce qu'il a l'habitude de faire. Et ça, c'est effectivement un peu la déception. Si vous aimez Bilal, si vous avez lu tous les Bilal, évidemment, vous allez vous jeter dessus. Vous n'avez pas besoin que je vous le conseille. Et en plus, je ne vais pas vous dire que vous n'allez pas aimer parce que, il y a tout ce qu'il faut pour que vous l'aimiez. C'est du pur Bilal. C'est juste, effectivement, peut-être moi, ma déception, c'est qu'on n'est pas rentré complètement dans ce que j'espérais sur ce titre. Voilà.
Après, effectivement, peut-être mieux vaut prendre quand même l'édition en format qui mettra quand même beaucoup plus en valeur le travail graphique d'Enki Bilal.
Oui, non, ça... J'en suis assez d'accord avec toi.
Surtout quand on voit son travail sur les les centres urbains. C'est waouh.
Il a fait ses visions futuristes des villes d'Europe. Il y a des planches magnifiques. Alors ça peut faire des tableaux qui peuvent vendre une fortune parce que vraiment c'est somptueux. Je suis sûr qu'avant de reproduire en litho en quantité industrielle, c'est un peu aussi la manière dont fonctionne la manière de travailler de Bilal. C'est pas, ça ne fait pas forcément avancer le schmilblick. Et puis du coup, il est obligé de mettre des placards de texte en face pour justifier le fait de mettre une image générique. Et parfois, ça rend un peu la lisibilité un peu plus lourde. Voilà, Stéphane, tu as deviné de quoi nous y allons parler ?
Oui.
Tu remarqueras ma gentillesse, je t'ai mis Ella Fitzgerald plutôt qu'un Mandalire.
Ouais, non, mais très très bien cette version-là, hein, en plus. Oui, on va parler effectivement du nouveau Dupuis, dans la collection, enfin c'est autour de Spirou,
de l'aventure de Spirou.
Il s'appelait Petit Roux, de Véron et de Yves Sand. Et c'est là, j'avoue, une pure merveille. Voilà. C'est magistral.
Alors,
bonheur de lecture.
La quatrième de couve.
Ah,
t'as du texte en plus cette fois-ci.
Ah oui, là, un petit paxon. Hein. Alors, il s'appelait Petit Roux. C'est l'histoire d'une rencontre et d'un premier amour d'enfance au cours d'une traversée transatlantique en 1929. Lorsque Juliette de Sainte-Loi, une charmante jeune fille de la haute société, fait la connaissance de Petit Roux, un jeune orphelin issu du monde du cirque, la vie de ces deux enfants élevés dans des milieux si différents bascule. Cette rencontre, joyeuse et animée, entre la fille du directeur de la compagnie nationale générale transatlantique qui accompagne son père à New York et le jeune passager clandestin qui fuit la France pour éviter d'être placé en institution, va marquer leur destinée à jamais. Il s'appelle les Petits Roux. C'est aussi le roman héroïque du véritable Mousse de Sonnery qui a inspiré le personnage de Spirou à Robvel. Certainement une des plus belles histoires de l'oncle Paul.
Voilà, donc on est effectivement sur un, ce qu'on pourrait appeler un Spirou zéro.
Spirou zéro, mais aussi avec un petit côté.
Il y a un côté Robin dedans.
Oui, mais il y a un côté. Vraiment un côté. On est sur du métatexte, quoi. C'est quelque chose que Grant Morrison aurait vraiment aimé, parce que, mine de rien, introduire des personnages fictifs comme l'oncle Paul, dans la petite histoire de la grande histoire est superbe.
Voilà.
Un grand moment.
Donc, cette histoire nous raconte comment ce personnage que tout le monde appelle le Petit Roux se retrouve effectivement à embarquer sur ce bateau de manière clandestine parce qu'on ne l'a pas laissé rentrer normalement et qui finalement va se retrouver avec un boulot parce qu'il y a un des matelots qui a pas pu embarquer au départ. Et donc, ce gamin de la balle va devenir groom sur ce ferry où il va mener l'enquête déjà. Et voilà, on est sur quelque chose qui, du coup, ne nécessite pas d'avoir une connaissance énorme en Spirou.
C'est vrai.
Parce que, du coup, ça se dit tout seul.
Oui, mais avec tout plein de petits clins d'œil, le fait qu'ils utilisent l'oncle Paul, qui est quand même une des histoires, des figures tutélaires du journal Spirou.
Voilà.
Effectivement, c'est un petit plaisir de lecture, là.
Voilà. Après, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez étonnant et qui fait plaisir. C'est pas le premier album dont on parle ici. Je crois que c'est le quatrième dont on parle dans cette collection sur 12.
Il y a toujours cette collection, il y a très peu de choses à jeter. Hein.
Voilà, il y a eu vraiment des choses assez, assez intrigantes et assez impressionnantes. Et là, c'est vraiment un album qui vraiment va vraiment rendre hommage à ces Spirou. Techniquement, on a Laurent Véron qui est au dessin, qui est quand même... loin d'être le quart d'un manche, c'est quand même lui qui...
On va dire ça, quoi.
Voilà. C'est lui qui avait repris Boulet Bill après le départ de Roba. C'était effectivement, de façon, un de ses disciples. On est vraiment sur quelqu'un qui a une technique. On est dans une franco-belge classique, mais on est quand même sur quelque chose de vraiment intéressant et techniquement maîtrisé de bout en bout. Voilà. On est en plus avec un scénariste qui est Yves Sant. Alors Yves Sant, il a une spécialité. Toutes les séries pour lesquelles il est connu sont des séries qu'il a reprises, puisque quand même il est habitué à des reprises multiples. Il a beaucoup travaillé sur Blake et Mortimer, sur Torgal, sur 13 maintenant. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est un habitué des reprises. Et du coup, là, il nous montre en un seul album il est capable effectivement de reprendre n'importe quelle série en sachant y mettre sa patte et en sachant à la fois revenir chercher la Madeleine de Proust qui fait que même s'il fait un album différent, il va plaire aux aficionados du personnage.
Oui, et puis il a une connaissance, soyons clairs aussi, il a quand même une sacrée connaissance du... De l'univers du Spirou, parce que toutes les petites références qui sont intégrées sont sympathiques, quoi. Effectivement, le Tignes fait référence aussi écho à un autre personnage qui apparaissait dans les tout premiers, qui s'appelait Paul Dur. On a une toute première aventure de Spirou et tout. Là.
Voilà, donc on est quand même sur une histoire qui va marquer.
Et qui pourtant, en plus, c'est pas forcément joyeuse, quoi. Ça commence mal, ça finit mal aussi.
Voilà.
Mais c'est un beau. très très beau travail.
Voilà, c'est vrai que ça pose effectivement les bases d'un personnage d'une manière très sympathique et assez plaisante quand même. C'est un album qui sort du lot justement par son classicisme sans avoir un côté déjà vu. Parce que effectivement, le risque toujours dans ces cas-là, c'est que soit on fait quelque chose de trop différent, et effectivement, on perd complètement les lecteurs, soit on fait quelque chose de tellement référentiel que si on n'a pas lu les autres albums, on ne peut pas le comprendre. C'était notamment le cas d'un qu'on avait chroniqué ici, qui était le tome 8, qui s'appelait La Grosse Tête, qui faisait tellement référence à d'autres albums.
Qui faisait référence à un album ce qui appelait aussi une histoire qui s'appelait La Grosse Tête, qui était de Franquin. Donc, oui, effectivement, là, si on n'avait pas eu ces éléments-là avant, on perdait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. C'est vrai.
Donc c'est vrai que c'est quand même assez problématique. Donc c'est un album qui coûte en plus 16,50 €. Qu'est-ce que je vois? Non, il y a un problème.
C'est un très bel objet.
Voilà. Parce que je le vois plus cher en format Kindle qu'en format normal.
Là, il y a un problème.
Voilà. Oui, non, mais il y a deux éditions. Je pense que j'ai ouvert la mauvaise. Il y a même plus que deux éditions.
Voilà. Après, c'est pas forcément étonnant, puisque pour les Kindle, normalement, ils sont considérés comme c'est un service informatique. Donc, normalement, ça doit être une TVA à plein pot et pas la TVA du livre.
D'accord, bah si, non, 16,50. Enfin, bref, on est quand même sur un album, de toute façon, qui les vaut. Hein.
Ah oui, oui, oui.
Parce que c'est d'ailleurs le moins épais de la sélection. C'est pas le plus rapide à lire. Parce qu'on est quand même sur des planches assez...
Et puis il y a un travail de... Il y a un dynamisme.
Il y a une densité aussi.
Oui, les planches sont super bien construites. C'est un petit bonheur.
Voilà, en tout cas, c'est un album que personnellement, je vais vous recommander. Même si vous n'êtes pas fan de Spirou, ce que mon cas, hein, je n'ai pas spécialement une affection très marquée sur le personnage...
Ça dépend des périodes, mais bon, Franquin, en termes de genre, j'ai quand même un petit faible.
Oui. Voilà, mais ça reste effectivement quand même un album très réussi. Et du coup, on vous encourage effectivement à y
jeter. Ça m'a fait un très beau cadeau pour pas très cher.
Voilà, tout à fait. Après, on est quand même dans un album. C'est en plus, c'est transgénérationnel. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut effectivement. Ça peut plaire effectivement à des enfants, même si c'est assez long à lire. Hein. On est quand même sur un album assez dense, mais ça reste effectivement une belle histoire sur le personnage de Spirou. Donc il s'appelait Petit Roux.
Oui. Petit coup de cœur là.
Voilà,
on a fait même un gros coup de cœur sur voilà. Les
Et puis on va finir par un dernier titre.
Alors qui s'appelle Les Ruines de Tagal. Qui sont sortis chez Les Enfants Rouges. Je ne connaissais pas cette maison d'édition.
Oui, oui, c'est un petit éditeur.
Donc, Cyril Legré et Nina Jacquemin.
Alors, je vais te laisser faire la quatrième de coup, ça va être très rapide cette fois-ci.
Ah oui, là, c'est la première fois que tu n'as pas l'air heureux d'être rentré. Il s'est passé quelque chose à Tagab. Raconte-moi. Pas maintenant.
Voilà. Pas maintenant, effectivement, ça va être toute la question du livre. Je ne vous raconterai pas ce qui s'est passé, puisque vous allez l'apprendre effectivement à la fin de l'album. Et à la fois, tout le monde sait ce qui s'est passé. Tout le monde sait que ce qui s'est passé lors de cette mission, je crois que c'est en Afghanistan, était terrible.
Il faut dire que ça raconte l'histoire d'un militaire.
Voilà. C'était un vétéran donc, d'Afghanistan qui revient et qui, quand il revient de mission, n'arrive pas à se refaire à la vie civile, a un lourd secret qui fait que ça le sépare effectivement de sa femme. Et c'est... Ça commence effectivement à poser problème psychologiquement et il n'arrive pas à surmonter. Et on est vraiment du coup dans une histoire psychologique. Alors au dessin, on retrouve une dessinatrice dont on avait déjà parlé il y a pas si longtemps, qui était venue à Caen au Salon du Livre et qui avait travaillé sur un titre. Je cherche le premier mot. Voilà, c'est La tristesse de l'éléphant. Je savais que c'était quelque chose de l'éléphant, je ne retrouvais pas le premier mot. Voilà. Et on est effectivement donc dans quelque chose d'assez différent, puisqu'on n'est plus sur cette histoire de petit garçon au cirque. On est vraiment sur une histoire beaucoup plus grave, mais qui fonctionne vraiment excellemment bien. C'est intelligent, contrairement au premier titre qui essayait aussi de nous faire de la psychologie. Eh ben là, la psychologie, elle se fait toute seule parce que on est complètement à l'opposé du premier titre où la psychologie est évidente. On sait ce qui s'est passé. On sait que tant qu'il n'en parle pas, il n'arrivera pas à le surmonter. Et on a une vraie empathie pour ce personnage qui vraiment a vécu les atrocités de la guerre. Et on va effectivement attendre la fin de l'album pour savoir ce qu'il en est. C'est beau, c'est bien écrit.
Oui.
Il y a une finesse dans l'écriture. C'est-à-dire que là, clairement, non seulement le dessin est magnifique, les couleurs sont magnifiques, mais il y a en plus un scénario qui, pour un premier scénario, est vraiment une surprise. On est vraiment dans une évocation tout en finesse. Du drame que vit cet homme, avec en plus cette intervention en plus de sa femme et de son fils, d'un quatrième personnage qui va être le prêtre qui va faire son travail de prêtre à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il va ramener une brebis égarée dans le droit chemin, et en n'essayant pas d'imposer à un athée de devenir religieux. Et vraiment, on est dans des personnages qui fonctionnent tous, qui ont tous leurs faiblesses, et voilà.
Ils sont effectivement pas unidimensionnels, et surtout, par rapport au dessin, il y a un gros travail de mine de plomb, de crayon à papier, qui donne vraiment une texture étonnante, et surtout, c'est les personnages. On n'est pas sur un style réaliste, mais pourtant tu as tout un travail sur les expressions qui est exceptionnel. Vraiment, c'est.
En plus, on n'est pas dans un côté condescendant.
Oui, tout à fait.
On est quand même dans une bande dessinée pour adultes, quoi qu'il arrive. Il y a 2-3 scènes de sexe qui sont assez crues. On va éviter effectivement là de le mettre entre des mains trop enfantines. Mais ça rend aussi les personnages tous assez profonds. C'est-à-dire que il y a toutes ces scènes de sexe, elles démontrent aussi à la fois l'image trop propre de la famille qu'on pourrait essayer de voir dans cet album. On n'essaye pas d'enjoliver les choses. On montre la réalité de cet homme. Et de ces hommes et de ces femmes, à la fois que ce soit dans les scènes en Afghanistan ou lors de leur retour. Et voilà, c'est une évocation qui m'a vraiment surpris, parce que j'ai rarement vu un album qui parlait autant de la dépression sans la montrer réellement, et en faisant qu'on la comprend aussi bien. Parce que même avant de savoir ce qui s'est réellement passé, on a une compassion pour le héros, et c'est vraiment très intéressant. Voilà. Donc moi, c'est vraiment du coup mon coup de cœur de la sélection. Quand j'ai pris les 4 albums comme ça au départ, c'est peut-être celui dont je me méfiais le plus. D'ailleurs, c'est le dernier que j'ai lu. Et honnêtement, si moi, à titre personnel, je ne devais en garder qu'un, ce serait clairement celui-ci, parce que il m'a vraiment laissé sur les fesses. C'était vraiment un album sur lequel j'aurais pas vraiment parié, parce que la couverture est assez pas très vendeuse.
Ouais, je suis d'accord, c'est effectivement Alors que le reste, c'est quand même assez étonnant. Il faut, ça mérite de s'y plonger, mais c'est vrai qu'on se fait très rapidement happer par l'atmosphère.
En plus, c'est un album qui est en bichromie.
Oui.
Mais ils ont réussi, et ça c'est assez fort, en jouant sur les contrastes, à donner deux ambiances complètement différentes aux scènes dans les deux couleurs.
Oui, entre les scènes, effectivement, de souvenirs de guerre, les scènes un peu de reconstruction, autre, et c'est vrai qu'on a un travail de couleurs assez étonnant. Et on passe sur même si c'est de la bichromie, sur des pages une tonalité très froide, à d'autres beaucoup plus chaudes, et c'est assez...
Voilà.
Ça renforce ça renforce le propos. Sinon, c'est vraiment une œuvre aboutie.
Voilà. Donc, c'est un.
À 17 euros.
17 euros. Oui. Voilà.
Ça
le vaut vraiment. On revient sur les quatre titres du jour.
Ben, allons-y.
Alors,
Allons-y. Désolé.
Donc, on a commencé par vous parler de Cosmonautes.
Oui, de D'en haut, la Terre est si belle, de Tony Bruno, donc un sympathique auteur italien. Moi, même si on n'a pas été tout à fait convaincu par son boulot, c'est paru chez Glénat, dans la collection Très étrange, et c'est un prix de 20 euros, tout rond.
Voilà, donc... Un album effectivement qui joue effectivement sur l'aspect historique. On jouait sur un aspect post-apo, fin de siècle, vieux con.
Oui, un petit peu d'anticipation avec un Kibila Albug. Alors, le livre 1 qui est paru chez Casterman, voilà. Et cette édition-là est à 18 euros.
C'est le seul qui ne soit pas un one-shot dans la sélection du jour.
Oui. Alors, graphiquement, comme on disait,
irréprochable.
Irréprochable. C'est un pur bonheur de se plonger dans ces pages et tout. Après, on est peut-être un peu moins convaincu par le propos et tout. Est-ce que ça aurait mérité d'être... Enfin, ça va apparaître en deux
c'est
albums.
C'est déjà sorti en deux formats, oui.
Non, oui, mais en plusieurs formats. Donc, plutôt deux le albums. Grand, si on veut voir ça. Après, il y a deux albums. Est-ce qu'il aura le souffle On va voir. Parce qu'il lance pas mal de pistes, mais après, voilà, est-ce qu'il va retomber sur ses pas?
Il lance pas mal de pistes, et à la fois, à la fin de ce premier tome, on sent bien qu'il n'a pas forcément envie de travailler toutes les pistes. Alors, à moins qu'effectivement, il y ait une grosse surprise à la fin, je reste assez craintif sur le résultat final. Sur les deux derniers titres, plus de crainte, on est vraiment...
On est dans du très très bon. Mais enfin, soyons clairs, la sélection de cette année, cette dernière sélection de,
voilà, clairement,
de franco-belge et tout, était quand même d'un bon niveau. Hein.
C'est clair, d'un très bon niveau, c'est clair. Alors, on a donc, il s'appelait Petit Roux, le 12e tome de la collection Une aventure de Spirou.
Donc, de Véron et d'Yves Sante, qui est mon petit coup de cœur de la sélection, là.
Voilà, donc un très bel album nous racontant effectivement une origine de Spirou qui est en plus tout à fait efficace. Voilà. Et puis dans un titre beaucoup très différent et beaucoup plus mélancolique.
Les ruines de Tagal aux éditions Les Enfants Rouges de Cyril Legré et Nina Jacquemin. Et effectivement, très 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 beau, très bel ouvrage. Pour 17 euros, franchement, ça les vaut. Et bon, on peut quand même soutenir ce petit éditeur-là.
Voilà, et puis je pense que c'est quand même clairement, à mon sens, hein, une de ces histoires qui marque suffisamment pour qu'on s'en rappelle des années après, parce qu'il y a un souffle de vérité là-dedans. Ça me rappelle un peu le Fax from Sarajevo qu'on avait eu de Kubert. Qui vraiment marquait complètement ce moment d'histoire. Et là, effectivement, ça fait partie de ces évocations des atrocités de la guerre qui savent marquer dans leur sobriété.
Sobriété, mais avec quand même une vraie profondeur et une réflexion tout autour de ça qui est quand même vraiment intéressante.